Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Sas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure. Tous les premiers mercredis du mois, je sélectionne et vous recommande 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient disponibles au visionnage en VOD ou streaming. Ce mois-ci, nous allons prendre part à la bataille féroce entre un U-boat allemand et un croiseur américain dans l'Atlantique, puis nous explorerons les méandres de la mémoire pour déboucher sur une obsession artistique et enfin assister à une fresque épique sur fond de chasse aux sorcières. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'épisode 10. Torpille dans l'Atlantique, titre original The Enemy Below de Dick Powell, durée 1h38. Dans l'Atlantique Nord, un destroyer américain mené par le capitaine Murrell, un homme à la réputation de pleutre, repère un U-boat allemand mené par von Stolberg, un capitaine allemand dévoué à sa patrie, mais pas tellement au Führer. Chacun de ces deux hommes va mettre en place une stratégie pour éliminer l'autre dans une guerre qui semble les dépasser et dont ils ne comprennent que trop bien les enjeux.
Rich, sonar, I'm getting screwy noises from the hydrophone.
Put it on the line, Lewis.
And when we high and low and I with captivating waves.
All ahead for attack, Mr. Ware. Maybe we can rip him open in the middle of a waltz.
Là, on touche à un type de film qui a été très à la mode pendant un temps, qui s'appelle le film de sous-marin, ou en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'appelle. Je pense notamment à La Poursuite d'Octobre Rouge, de McTiernan. Bon, il y en a tout un tas, je ne vais pas vous faire une liste, faites des recherches, mais il y en a qui ont été faits par Tony Scott, il y en a qui ont été faits par plein d'autres réalisateurs importants, et souvent, ce sont des films qui sont intéressants, parce que ce sont des films qui se passent de fait à huis clos. Et du coup, il y a une sorte d'ambiance qui s'installe. Alors là, ce n'est pas exactement le cas parce que c'est plutôt un film d'affrontement marin, je dirais, puisqu'on oscille entre le destroyer américain et le sous-marin allemand, le U-boat. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. Au-delà de cet affrontement-là, il y a un affrontement entre les deux capitaines, qui est quand même la chose la plus intéressante du film. Cet affrontement entre ces deux hommes qui ont vécu un certain nombre de choses et qui sont globalement plutôt désabusés, surtout le capitaine allemand, qui est très conscient de la mission qu'on lui a confiée et qui est aussi très conscient de ce que la guerre signifie. Je ne vais pas vous divulgâcher les détails, mais vous verrez très rapidement en le regardant que c'est quelqu'un qui se fait plus trop d'illusions, en fait, hein, et qui a un peu du mal à acheter ce discours du Reich qui voudrait que l'Allemagne est la nation la plus puissante. Bon, voilà, c'est quelque chose que... Il est patriotique parce qu'il est soldat, donc ça fait partie de ses valeurs, mais il n'est pas non plus aveugle et débile, hein, il se rend bien compte de ce qui se passe. Donc c'est cet affrontement entre ces deux hommes qui m'a fait vraiment aimer le film, surtout parce qu'en fait, ils sont abordés de manière complètement différente. Dans le destroyer, on ne connaît pas cet homme, on ne sait pas d'où il vient, le capitaine Murrell, et il a cette réputation, il traîne avec lui cette réputation, comme il n'apparaît pas sur le pont, d'être un pleutre, réputation qu'il va, là pour le coup, je vous dis, je vous gâche rien, très vite contredire. Et de l'autre côté, il y a ce capitaine allemand qui lui est... pour le coup, est porté au nu par ces hommes et suivi aveuglément, je dirais. C'est-à-dire que ses ordres sont suivis à la lettre. Un mot justement de ce capitaine allemand qui est interprété par Kurt Jürgens. J'en profite pour vous dire que le capitaine américain, lui, est interprété par Robert Mitchum, donc quand même un duo au sommet. Kurt Jürgens, je vous en avais parlé pour « Et Dieu créa la femme » il y a quelques épisodes. C'est un acteur que j'apprends à apprécier de plus en plus à mesure que je le découvre dans des films. Et surtout, c'est un rôle qu'il a défini lui comme étant très très important pour sa carrière, puisqu'il disait que pour la première fois, il jouait pas un espèce de capitaine allemand psychotique, quoi. C'est-à-dire qu'on est en 57, donc 12 ans après la guerre, il aurait été facile de peindre ce personnage-là comme un espèce de malade mental, un fou de guerre, complètement dévoué à la cause nazie. Et là, c'est pas le cas, donc c'est un rôle qui a vraiment été important pour lui, je pense. En parlant de ça, c'est un film qui, je pense, a dû être visionné par Wolfgang Petersen. Petersen, il a fait un film dans les années 80 qui s'appelle Das Boot, qui est un film donc allemand et qui se passe à bord d'un sous-marin allemand. Je pense que Petersen a dû regarder avec attention les scènes de The Enemy Below, particulièrement évidemment celles qui se passent dans le U-boat, puisque le gros de l'action de Das Boot se passe au sein d'un U-boat. Et c'est un film que je vous recommande d'ailleurs de découvrir. Je crois qu'il est disponible sur Netflix. Voilà, donc... Vraiment un grand film, The Enemy Below, et il y a quelques éléments qui ajoutent en qualité au film. Je pourrais vous parler de Dick Powell, enfin en réalité non, je pourrais pas vraiment vous en parler parce qu'il a fait seulement 2 longs métrages pour le cinéma et puis 5 autres pour la télé. Moi je pense que c'était plutôt un homme de paille de Zanuck, le très connu et très charismatique directeur de la 20th Century Fox, le studio, à cette époque. En revanche, énorme carrière pour Harold Rosson. Harold Rosson, c'est le directeur photo sur le film, qui fait un superbe travail. Donc déjà, il y a le choix de le faire en cinémascope, qui prend tout son sens quand on est sur le pont du destroyer américain, puisque là, on est plongé dans ce bleu du ciel et ce bleu de l'océan, et dans cette espèce de paysage infini, en fait, qui est assez incroyable. En plus de ça, c'est tourné en Color Deluxe, qui est un processus concurrent du Technicolor, et qui donc rend plus ou moins les mêmes effets. Donc le film, il a cette couleur particulière, un petit peu saturée. Moi, c'est quelque chose qui me touche à chaque fois, j'espère que ça vous plaira. Je me dis que ça devait être assez incroyable en salle, en fait. Ça devait vraiment être un truc, on devait être plongé dans cet océan bleu, un peu saturé comme ça, et ça, c'est extraordinaire. Après, les scènes en cinémascope au sein du U-Boat, bon là pour le coup peut-être un petit peu moins de sens parce que le huis clos en cinémascope je vois pas bien l'intérêt, mais bon, pour tout ce qui se passe sur le pont, ça vaut le coup. Faut rajouter à ça le fait que quand on voulait faire exploser quelque chose dans l'Atlantique à cette époque-là, il fallait faire exploser quelque chose dans l'Atlantique. Bon, le film a été tourné dans le Pacifique Sud et est censé se passer dans l'Atlantique Nord, mais ce que je veux dire c'est que nous n'avions pas à cette époque-là les capacités qu'on a aujourd'hui pour rajouter des choses en post-production. Là, les explosions que vous voyez à l'écran, elles ont lieu en vrai. Il y a une vraie explosion qui a eu lieu pour tourner ça. Et ça, c'est quand même aussi très, très impressionnant à voir. Le film date de 57, mais de ce point de vue-là, il est extrêmement impressionnant parce que c'est vrai, en fait. Ce qui se passe à l'écran, c'est réel. Et ça rajoute aussi quelque chose, ça lui donne un certain cachet au film. Puis ensuite, pour terminer sur Harold Rosson, il est surtout connu pour son travail sur Le Magicien d'Oz, ou encore, et pour ma part, je dirais surtout, Singing in the Rain. On se situe avec The Enemy Below plutôt sur la fin de sa carrière, qu'il a commencé à l'époque du muet, et qui a aussi compté The Asphalt Jungle, qui est un autre film que j'aime beaucoup, un film de John Huston, que je vous recommande aussi d'ailleurs, comme ça au moins vous en avez 3 pour le prix d'un. Bref, si vous voulez de l'action, du suspense, ce grain et cette couleur si particulière et une amitié virile mais pas écervelée entre deux hommes qui sont prêts à tout pour remplir la mission qui leur a été confiée, je vous conseille The Enemy Below. Le film est disponible en streaming sur Filmo TV et en 1957 sortait en France Règlement de compte à Hockey Choral de John Sturges, L'homme à l'imperméable de Julien Duvivier et Porte des Lilas de René Clair. L'année dernière à Marienbad, d'Alain René, durée 1h34. Dans un hôtel de luxe, un homme se remémore comment une femme lui a promis de s'enfuir avec lui l'année dernière. Celle-ci ne semble pas se souvenir et leur discussion sème le doute.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Prenez un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
Essayons.
Cela se joue à deux. Les cartes sont disposées comme ceci. Sept. Cinq. Trois. Une. Chacun des joueurs ramasse des cartes, à tour de rôle, autant de cartes qu'il veut. À condition de n'en prendre que dans une seule rangée à chaque fois. Celui qui ramasse la dernière carte a perdu.
Alors régulièrement dans Cinécure, j'essaye de parler de films qui sont un petit peu moins accessibles, et Marienbad, ça rentre clairement dans cette catégorie. Moi, je l'ai découvert complètement par hasard. En fait, j'ai reçu Première Magazine chez moi, par erreur, et il y avait un article dedans où Edgar Wright listait les films qu'il fallait avoir vus selon lui, et il y avait Marienbad, et la façon qu'il avait d'en parler, je me suis dit, tiens, c'est incroyable, absolument que je vois ce film. Donc je l'ai emprunté à la médiathèque, je l'ai regardé. C'est très difficile d'en parler, alors je vais essayer de commencer par le début. En tant qu'espèce humaine, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les histoires. Hein. Avant, on se les racontait, on se les transmettait oralement, puis ensuite on a commencé à les écrire pour que les gens puissent les lire, puis ensuite les raconter à leur tour. Puis ensuite, on a commencé à les jouer avec le théâtre, puis ensuite le cinéma a été inventé. Et le cinéma, c'est un peu invité dans cette évolution de l'histoire, je veux dire, de l'histoire qu'on raconte. Et c'est une industrie qui est quand même un petit peu particulière parce qu'elle se situe à cheval entre l'art pur, donc l'art de raconter l'histoire, et l'industrie pure, c'est-à-dire le commercial. Donc il faut réussir à raconter une histoire en respectant certaines choses, certaines structures, et en plus de ça, il faut réussir à le faire de façon à ce que ce soit rentable commercialement. Donc il faut raconter une histoire avec un dénominateur commun suffisamment élevé pour que les gens s'y rendent et invitent d'autres gens à s'y rendre. Il faut que ce soit rentable. Là, Alain René, il prend tout ça, il le jette par la fenêtre et il utilise le médium cinéma pour complètement autre chose. Alors, il y a plusieurs théories. Moi, je vais vous livrer la mienne parce que je ne pense pas que ce soit divulgaché sur le film que de raconter ce que moi, j'en pense. Moi, je pense que ce que fait Alain René dans ce film, c'est une exploration de la mémoire et du souvenir. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous représentez dans votre tête un souvenir ? Comment est-ce que vous vous représentez votre mémoire ? Par exemple, dans la série Sherlock Holmes, qui est sortie il n'y a pas longtemps, la nouvelle, celle avec Benedict Cumberbatch, on voit qu'il a une sorte de sanctuaire dans lequel, une bibliothèque énorme dans laquelle il va piocher ses souvenirs et il va piocher ses connaissances. Voilà. Ben, Alain René, il fait ça avec son film. Et donc lui, la façon qu'il a de le mettre en scène, c'est dans cet hôtel luxueux, dans un jardin étrange, avec des personnages récurrents dont on ne sait pas très bien quelles sont les motivations. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est comment est-ce qu'il va représenter physiquement le souvenir et la mémoire. Ça, c'est une des premières choses qui m'a plu sur Marianne Bad. Une des autres choses qui m'a plu sur Marianne Bad, c'est le fait que René va utiliser le médium cinéma, comme je vous disais, pour faire quelque chose de complètement différent. Donc en fait, il y a une sorte de piratage qui est très intéressant et qui est surtout qui m'interroge énormément parce que en fait sur le papier ce film-là n'aurait pas pu ou pas dû exister. C'est vous choisissez. La question que je me pose c'est comment ce film-là a pu se faire. Qui a financé ça et surtout pourquoi. Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il allait sortir de ça. Je trouve que c'est fascinant de se poser cette question-là parce que c'est un exercice de style en fait. René il va prendre toutes les règles du cinéma, il va les tordre complètement, les déformer, pour réussir à porter à l'écran quelque chose qui est à la fois une histoire, mais qui n'est pas vraiment une histoire. Et c'est ça qui est très étonnant. Il va convoquer tous les outils du cinéma, notamment le montage, puisque Alain René, il a commencé comme monteur, il a fait ses études à l'IDEC comme monteur. L'IDEC, c'est l'ancienne Fémis. Et en fait, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il construit donc cette histoire, cette chose, cette réflexion, on va dire ça comme ça, c'est assez déstructuré, plutôt avant-gardiste, même très avant-gardiste. Il utilise tous les outils qu'il a à sa disposition, et au final, ça donne cette espèce d'objet artistique extrêmement bizarre, et qui a eu une influence majeure sur ce qu'on appelle la pop culture. Bon, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais bon, puisque c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs films, mais pas seulement. Donc les films, en l'occurrence, on retrouve dans Bon baiser de Russie, la scène pré-générique est un hommage à l'année dernière à Marianne Bad. Kubrick s'en inspire pour pas mal d'éléments de The Shining. David Lynch va s'en inspirer pour Inland Empire. Et puis ensuite, on a d'autres objets. Alors je vais pas vous faire une liste infinie, mais le clip de Blur to the End, c'est un hommage à l'année dernière à Marianne Bad. Et Karl Lagerfeld s'en est inspiré pour la collection Printemps-été 2011 de Chanel. Voilà. Donc il y a énormément de références qui partent de ce film-là. Et ce qui est surprenant, c'est que ce film-là va poser des questions, mais n'apporte absolument aucune réponse. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'Alain René est dans une recherche, mais il est dans une recherche où il n'a pas de réponse. Il va juste ouvrir, il va questionner, il va ouvrir des brèches, et il n'apporte strictement aucune réponse. C'est à la fois passionnant, frustrant, et c'est surtout extrêmement clivant, comme je vous l'ai dit. C'est un film qu'on retrouve donc sur la liste de Steven Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, mais c'est un film qu'on va aussi retrouver sur la liste de Harry Medved et Randy Lowell, les 50 pires films de l'histoire, et comment ils ont été réalisés. Donc voilà, qu'on aime ou pas, il y a dans ce film des moments de grâce, il y a des moments qui sont complètement dingues, et ce qui est intéressant en fait, c'est le ressenti de tous les gens. Donc si vous le voyez, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, @charlesdi. Je serais très curieux d'avoir votre ressenti sur le film. Moi, personnellement, j'ai bien aimé quand je l'ai vu, même si c'est difficile. Il faut s'accrocher pour le voir. Et je trouve que le film vieillit très très bien. C'est-à-dire que maintenant, quand j'y repense, j'en ai un souvenir vraiment agréable. Ce qui est rigolo, puisque le film exploite le souvenir, justement, et explore ça. Donc si ce que vous recherchez, c'est une réflexion sur la mémoire, ses méandres, la valeur d'un souvenir, et qu'en plus de ça, vous aimez que les limites du cinéma soient repoussées, alors L'année dernière à Marianne Bad est fait pour vous. Voyez-le, il est disponible en streaming sur Canal+. Et en 1961, l'année de sa sortie, on pouvait voir en France Spartacus de Stanley Kubrick, Le Comte de Monte Cristo de Claude Autant-Lara et Le Président de Henri Verneuil. La meilleure offre, titre original La Migliore Offerta de Giuseppe Tornatore, durée 2h11. Virgil Oldman est un commissaire priseur de grand talent qui fait étalage d'une grande arrogance afin de cacher sa crainte des femmes et son dégoût des autres. Avec son partenaire Billy, un peintre plus ou moins raté, il a organisé une combine parfaitement illégale qui lui a permis d'amasser, avec les années, une très grande collection de portraits de femmes à des prix dérisoires. Un jour, Virgile est appelé par une mystérieuse cliente pour venir vider sa villa de ses meubles et en faire la valorisation dans le but de tout vendre aux enchères. Au départ, rebuté par le mystère qui entoure sa commanditaire, Virgile va peu à peu tomber sous son charme et pourrait bientôt baisser les barrières qu'il a dressées tout au long de sa vie entre lui et ses contemporains.
I would have never have guessed that you would have ended up in a mess like this. I don't even know how I can help you.
All you had to do was listen.
Considering the lady's illness, it seems highly unrealistic that she's just run away. I'd say, I don't know, she'd been abducted, something like that?
That's not likely. I don't think she had any enemies. It could be somebody became so besotted with her that he carried her off by force.
But who?
I've had my doubts lately about Robert.
The young guy? The way you describe him, he doesn't seem the type.
From a literary point of view, he fits the bill. The young knight rescuing the damsel from the clutches of the old man, capable of love.
Alors on va commencer par l'aspect technique du film tout de suite parce que je n'ai pas beaucoup d'informations à vous partager sur le film. La première information, c'est que le réalisateur, c'est Giuseppe Tornatore. Et Giuseppe Tornatore, il est surtout connu pour Cinema Paradiso qu'il a fait en 1988. Et donc là, il revient des années plus tard. Alors il a fait d'autres films entre-temps, évidemment, pour nous plonger dans une ambiance complètement différente. Il va bien y arriver parce que son film, pour moi, est une réussite. Et surtout, son film est magnifique. Je ne savais pas du tout qui avait fait la photo. J'ai découvert que c'était Fabio Zamarion et ça ne m'a pas beaucoup avancé parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Je sais qu'il a fait la photo de U571, le film de sous-marin. Donc vous voyez, tout se recoupe finalement, hein, puisqu'on a commencé cet épisode avec un film de sous-marin. Mais voilà, c'est un directeur photo italien, je ne connais pas bien son travail, je ne connais pas bien les films sur lesquels il a travaillé, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et enfin, par contre, quelqu'un de qui je peux vous parler un peu plus en longueur, même si ce n'est pas vraiment le lieu, la musique est faite par Ennio Morricone, et donc on a ce duo qu'on avait déjà dans Cinema Paradiso en 88, qui est réuni à nouveau. Alors la musique de The Best Offer, ou La Migliore Offerta, ou La Meilleure Offre, appelez-le comme vous voulez, parce que les trois titres sont valables, on le trouve souvent sous le titre anglais d'ailleurs, n'est pas aussi bonne et aussi iconique, d'après moi en tout cas, que celle qu'il y avait sur Cinema Paradiso, qui est proprement magnifique et très très romantique. Voilà, donc ça c'est pour la partie technique. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le film. Donc tout le reste de ce que je vais vous dire, c'est du ressenti. Moi, ce film m'a énormément parlé. Il m'a parlé parce qu'en fait, c'est un film qui parle de défense et de contrôle. Le personnage qui est interprété par Geoffrey Rush est un personnage qui a pour volonté de contrôler absolument tous les aspects de sa vie. Et la raison pour laquelle il contrôle tout ça, c'est parce qu'il a peur, en fait. Voilà. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec la théorie selon laquelle on crée ce que l'on craint. Le film est une allégorie de cette théorie, en fait, hein, puisque Geoffrey Rush va créer en fait sa plus grande peur et sa plus grande crainte. Et on va assister, nous, spectateurs, à cette création, en fait. On va le voir créer ça et devoir se confronter à ça. Alors, je ne veux pas vous en révéler trop, parce que ce serait dommage. Ce n'est pas un film hitchcockien à proprement parler, mais il y a quand même sa part de suspense et sa part de rebondissement. Voilà. Ce n'est pas forcément le plus grand intérêt du film. En tout cas, je pense qu'à tort, ça a souvent été pris pour le plus grand intérêt du film. Pour moi, ce n'est pas un film nécessairement à rebondissement. C'est surtout un film d'acteur, particulièrement de Geoffrey Rush, qui livre une prestation qui est quand même fantastique. Fantastique. Et à côté de ça, vous avez Giuseppe Tornatore qui va créer une espèce de petite ambiance que moi j'aime beaucoup, qui est un peu mystérieuse. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde où tout le monde semble parler anglais, mais on n'est manifestement pas en Angleterre ni dans un pays anglo-saxon. Pour ceux qui connaissent l'Italie, on voit clairement qu'on se trouve en Italie. Bon, il se trouve que le film a été tourné en Suisse italienne, donc ça explique un petit peu pourquoi on est dans cette espèce d'ambiance un peu internationale comme ça. Et puis en plus, ça se passe dans un milieu auquel on n'est pas franchement habitué, ni dans les films, ni dans la vie, à moins que ce soit votre métier. Dans ce cas-là, contactez-moi. Mais on est dans ce monde des commissaires-priseurs, ce monde de l'art en fait, de l'achat et de la vente d'art, des antiquités. Donc ça aussi, ça rajoute énormément au film. Et puis ensuite, il y a des bizarreries, il y a des choses étranges. Et tout ça, ça rajoute de la valeur au film, je trouve. Ça lui donne un aspect mystérieux et parfois incompréhensible. Je ne vais pas vous mentir, le gros du film repose quand même sur cette prestation fantastique de Geoffrey Rush, qui est quand même bien plus haut que les autres acteurs, accompagné d'ailleurs par Donald Sutherland, mais qui a un rôle minime, donc vous le verrez un petit peu à l'écran, il est toujours aussi excellent. Mais celui qui porte vraiment le film, c'est Geoffrey Rush. Le film à sa sortie a été globalement mal reçu par la critique et très bien reçu par le public, donc ça contribue aussi à faire du film un objet d'intérêt, je trouve. Et voilà, c'est suffisant parfois. Parfois, on n'a pas besoin d'un grand film. Parfois, on n'a pas besoin d'un chef-d'œuvre. On a juste besoin d'un film qui va nous amener dans des endroits auxquels on n'est pas habitué, dans un quotidien qui est surprenant. C'est le cas de ce film, je trouve. Et puis, si vous aimez, vous, les thrillers psychologiques et l'histoire de l'art, alors bah, ce film est fait pour vous. Il est disponible en VOD sur Bbox pour 2,99€. Et en 2013, sortait en France Django Unchained de Quentin Tarantino, Gravity de Alfonso Cuarón et Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. Nos plus belles années, titre original The Way We Were de Sidney Pollack, durée 1h58. Un peu avant la Seconde Guerre mondiale, Katie Morosky, une prolétaire communiste américaine opiniâtre, tente de motiver les étudiants de son campus à faire la grève et à rejeter la dialectique pro-guerre des politiques en place. Elle se heurte bien souvent à un mur, dont Hubble Gardiner, un riche étudiant ayant droit qui prend tout à la légère, fait partie. C'est de là que tout oppose vont se rapprocher via leur cours d'écriture, et bientôt, une liaison va naître qui va évoluer au fil de l'histoire des États-Unis.
I wasn't sure when you'd be home. How are you? Look, I don't know when I'll be back. Could you leave a key or...
No, you can, you can, you can. I've got steaks and baked potatoes and sour cream and chives and salad and fresh baked pie. I would have made a pot roast. I make a terrific pot roast, but I didn't know whether you ever had pot roast or whether you like pot roast. I mean, anyway, there wasn't time because it should be made the day before. So I got steaks with all my ration stamps. And you must be hungry because, I mean, with all the hotel hunting, you couldn't have had time to eat or anything. I mean, you can't go yet. You've got to stay for supper. That's all there is to it.
What kind of pie?
Je vous parlais tout à l'heure avec l'année dernière à Marianne Bad de l'équilibre de l'industrie du cinéma qui répond à la fois à des exigences artistiques, donc il faut créer un film qui soit une œuvre, et à des exigences commerciales, cette œuvre doit être rentable économiquement. Et je trouve que The Way We Were, donc Nos plus belles années en français, est le film parfait pour illustrer cet équilibre bizarre dans lequel est cette industrie étrange du cinéma, puisqu'on a à la base un script qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Arthur Lawrence, qui était notamment auteur de ce bouquin, mais en plus de ça, d'autres bouquins, un romancier, et aussi scénariste, puisqu'il a écrit donc notamment The Way We Were, mais aussi La Corde de Alfred Hitchcock. Et ce monsieur, donc Arthur Lawrence, s'inspire de son histoire d'amour avec l'acteur Fairleigh Granger, qui est un acteur qu'on a notamment pu voir sur La Corde de Alfred Hitchcock, mais encore L'Inconnu du Nord Express, pour ne citer que les films de Alfred Hitchcock. Donc Arthur Lawrence base son livre et donc son script sur cette histoire d'amour-là. Et le désir qu'avait Arthur Lawrence, c'était de raconter une histoire de politique contemporaine américaine avec une histoire d'amour en arrière-plan. Or, Sidney Pollack, qui est donc le réalisateur du film, lorsqu'il s'empare du sujet, lui, il va réaliser une histoire d'amour avec en arrière-plan un commentaire politique des années 50, puisqu'il s'agit de l'époque de la Blacklist aux États-Unis. Alors la Blacklist, c'est une période qui, moi, me passionne hautement, et c'est pour ça que le film a tellement résonné en moi, puisque c'est la période où l'industrie américaine va subir les foudres du sénateur McCarthy, et où en fait, il va y avoir une espèce de paranoïa qui va s'emparer de l'industrie de Hollywood, et que l'industrie hollywoodienne ne va pas vraiment s'en remettre en fait. C'est une période où tout va changer, où vraiment tout le monde va se regarder un peu en chien de faïence, et où en fait des méfiances vont naître et des traumatismes vont naître. Certains scénaristes vont être blacklistés, ne pourront pas travailler ou devront travailler sous pseudonyme pendant des années pour leurs amitiés communistes. C'est une période incroyable que je vous encourage à étudier ou à approfondir si le cœur vous en dit. Moi c'est quelque chose qui m'a passionné, j'ai des références de bouquins, je pourrais vous les donner si vous me les demandez, il n'y a pas de souci. Et en fait, donc le choix que va faire Sidney Pollack d'en faire une histoire d'amour avant tout va fortement déplaire à Arthur Lawrence, qui n'est absolument pas content du résultat. D'ailleurs, le film ne lui plaît pas, il n'aime pas du tout. Moi, je trouve que c'est un film absolument sublime. Pour moi, c'est une fresque épique. Évidemment, il y a cette histoire d'amour incroyable de ce couple qui, en fait, est tellement disparate et vraiment dysfonctionnel, mais au sens le plus romantique du terme. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une attirance, on sent bien qu'il y a quelque chose qui puis il y a une force qui mène ce couple-là, qui est souvent d'ailleurs interprété par le personnage de Barbara Streisand, qui est vraiment celle qui tire un peu la carriole de ce couple, contrairement à Robert Redford qui lui se laisse porter. Et en fait, il y a tout le propos social là qui est représenté, ne serait-ce que par ce que je viens de vous dire, mais aussi par tout un tas d'autres choses. Donc évidemment les sympathies communistes de Barbara Streisand, et puis la facilité libérale du personnage de Robert Redford. Toutes ces choses-là sont convoquées, et ça rend l'histoire d'amour pour moi en tout cas à mes yeux, encore plus forte. Ça l'inscrit dans cette histoire contemporaine, en tout cas relativement moderne, de l'histoire américaine, cette période qui est un peu spéciale et qui encore une fois a été traumatique pour cette industrie-là, qui a eu vraiment beaucoup beaucoup de mal à s'en remettre. Je vous encourage notamment à chercher un peu plus d'informations sur le réalisateur Elia Kazan, qui est un réalisateur très très important américain et qui a dénoncé un certain nombre de ses contemporains et qui a dû en subir les foudres par la suite, notamment celle de Orson Welles, qui n'était pas particulièrement un personnage tendre. Voilà, je trouve qu'en fait toute cette histoire-là est incroyable, et c'est la toile de fond parfaite pour une histoire d'amour à la hauteur de celle que nous propose Sidney Pollack. Un petit mot sur les prestations de Robert Redford et Barbara Streisand. Donc il y avait deux méthodes de fonctionnement complètement différentes. Barbara Streisand voulait absolument répéter, connaître tout par cœur sur les doigts de la main, et Robert Redford, lui, voulait jouer de façon spontanée. C'est rigolo parce que c'est un petit peu... on retrouve un petit peu en fait de leur personnage dans cette façon de fonctionner. Alors ils se sont très bien entendus, même si c'était très difficile au début parce que l'un et l'autre fonctionnaient de façon très différente, un petit peu comme le couple qu'ils interprètent à l'écran. Et si les deux prestations se répondent parfaitement bien, je trouve que la très bonne surprise du film, c'est Barbara Streisand qui, moi, m'a soufflé complètement. Et dire qu'en France, on nous l'a vendue comme une actrice kitsch pendant des années, c'est incroyable en fait. La prestation qu'elle livre est fantastique puisqu'elle a... Je dirais qu'elle porte le double poids sur ses épaules de devoir non seulement répondre à Robert Redford, qui signe là sa troisième collaboration avec Sidney Pollack, les deux hommes feront 7 longs métrages ensemble, mais en plus de le faire avec une énergie qui correspond à celle de son personnage finalement, et elle fait totalement le travail pour moi. Donc vraiment un film qui m'a transporté en fait, et puis à ce côté romanesque que Sidney Pollack sait insuffler à ses intrigues et à ses histoires. Et un peu comme Out of Africa, comme je vous l'ai dit, moi c'est un film qui est cher à mon cœur. Voilà, on retrouve de ça ici, et je trouve que c'est un film admirable. Si vous cherchez une histoire d'amour bouleversante, mais que vous ne voulez pas sacrifier vos idées progressistes pour autant, je vous conseille The Way We Were, Nos Meilleures Années, donc, disponible en VOD sur la Cinéthèque pour la somme de 3 euros. Et en 1973, vous pouviez voir en France Le Grand Bazar de Claude Zidi, Deux hommes dans la ville de José Giovanni, et Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander de Woody Allen. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 10 de Cinécure. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner déjà, et puis à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle autre plateforme qui accepte les notations. C'est important pour le référencement. Je vous invite aussi à le partager et à en parler autour de vous. J'ai besoin de vous, mes auditeurs, pour continuer à faire plus d'épisodes. Cinécure est un podcast créé par moi, Charles-Edouard Wasselin, et produit par Adrien Larouzet pour Vaisseau Hypersensas. J'en profite pour les remercier tous de leur patience et de leur bienveillance. Comme on a commencé une nouvelle année, je voulais vous faire un cadeau à tous pour vous remercier de votre fidélité. On me demande souvent si je peux conseiller des films des années 50 ou des années 60, et à chaque fois, je donne les mêmes qui sont en général des classiques. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une liste de films que j'aime, un par an et si possible 10 par décennie. C'est ce que j'ai fait sur Letterboxd, où j'ai créé une liste intitulée très judicieusement « De 41 à 79 » et qui répertorie donc les films qui sont sortis entre 1941 et 1979. Je vous donne le lien en description de l'épisode, et si vous utilisez déjà Letterboxd, n'hésitez pas à me suivre. Vous trouverez notamment une liste avec tous les films que j'ai recommandés dans tous les épisodes de Cinécure depuis le début. Si vous ne le faites pas déjà, suivez-moi sur Instagram, @charledy, où je parle majoritairement de cinéma. D'ailleurs, je vous retrouve par là-bas dans une semaine pour parler de films en relation avec ceux que je viens de vous recommander, comme d'habitude. Et sinon, bien entendu, un nouvel épisode de Cinéessentiel arrive. Il sortira le mercredi 16 février. Ah, et puis je vous réserve une petite surprise pour le 23 février, qui sortira ici même, c'est-à-dire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez en ce moment même ce podcast. Je vous rappelle enfin que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Cinécure où nous parlons de cinéma en général et des films recommandés ici parfois aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours contents de voir de nouvelles têtes. Allez, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !